définition, une des définitions les plus simples finalement, c'est une caméra volante de haute résolution et équipée de missiles. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de traiter de cet objet comme un ovni, au sens d'un objet violent non identifié. C'est-à-dire, ben, c'est un livre de philosophie politique, mais ce qui intéresse la philosophie, en règle générale, ce sont des objets qui produisent des crises d'intelligibilité, qui font éclater les catégories de pensée traditionnelles qu'on cherche à leur appliquer. Et le drone, c'est un objet de ce type-là. Et alors qui fait éclater du trouble dans toute une série de questions très classiques et très simples d'apparence. Par exemple, qu'est-ce qu'un lieu, ou plutôt où est-ce qu'une action a lieu? L'action de tuer, par exemple. Lorsque cette action est écartelée entre des points aussi distants qu'une base militaire américaine au Nevada, et puis à l'autre bout d'un faisceau de télécommunications, le nord du Pakistan, où un missile tue. L'unité de lieu de l'action éclate. Et puis d'autres types de crises encore. Une crise dans les valeurs militaires traditionnelles, et spécialement dans cette branche des affaires militaires qui est l'aviation. Enfin, les pilotes de l'Air Force, c'était cette caste supérieure. En France, on avait les Chevaliers du Ciel, puis l'imagerie importée des États-Unis de Top Gun. La surprise, une des surprises en rédigeant ce livre, en menant l'enquête, c'était de découvrir que les premières contestations, radicales, hein, à fleur de peau du drone, elles ne venaient pas des pacifistes américains, mais d'abord des pilotes. Et on trouve, je retranscris dans le livre une chanson d'un groupe de pilotes qui s'appelle Dos Gringos. Ils se définissent comme un groupe qui cherche à faire revivre le genre traditionnel du chant des pilotes et qui font un requiem du drone Predator. Vous voyez une crise là dans l'éthos guerrier, dans l'éthos militaire. Bon, et un des objectifs de ce livre, c'est d'étudier ces crises à facettes multiples qui affectent l'ensemble des catégories liées aux affaires de la guerre à partir de cette nouvelle arme, le drone. Ce livre, il se clôt finalement sur une partie prospective, parce que le drone est encore un engin téléguidé, télécommandé. Mais dans les cartons, même plus que dans les cartons, dans les laboratoires de recherche militaire aujourd'hui, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la robotique létale autonome, c'est-à-dire des systèmes d'armes où il n'y a plus d'humains dans la boucle, ni même au-dessus de la boucle. L'homme, l'opérateur humain, est expulsé hors de la boucle, et la perspective cauchemardesque, mais qui n'est pas de la science-fiction, c'est des machines qui prennent elles-mêmes la décision de tuer, avec des discours qui d'ores et déjà sont mis en place pour accompagner ces développements, des discours éthiques qui nous expliquent que des machines, des robots, pourraient potentiellement être plus humains que les humains eux-mêmes. On a un discours très paradoxal, un discours post-humaniste qui prépare la venue de cette robotique létale autonome. Alors, j'essaie de faire plusieurs choses. D'abord, de réfuter par avance ces discours-là, parce qu'en réalité, ils servent à abaisser le coût réputationnel de ces armes. Et donc, il y a un combat sur le terrain philosophique, parce que les promoteurs à la fois des drones et de la robotique létale autonome ont besoin de justification. Et moi, je pense qu'il est d'une certaine manière, du devoir d'une philosophie critique, d'examiner ces arguments et de les réfuter. Et puis, j'essaie de faire autre chose. Si je m'intéresse à ces objets-là, c'est d'abord pour eux-mêmes, mais aussi, d'une certaine manière, de façon plus générale, parce que je crois qu'on peut saisir, dans ces figures hyperboliques, exagérées, des traits que l'on retrouve dans d'autres secteurs de la vie sociale, de même que Foucault, lorsqu'on l'interrogeait sur pourquoi est-ce qu'il étudiait la prison, répondait bien sûr parce qu'il y a des luttes en prison, parce que c'est une question politique, parce qu'il faut penser la généalogie et l'arbitraire de ce système de pouvoir, mais aussi parce que là, dans ces objets qui par bien des aspects sont naïfs et grossiers dans la violence, parfois nue, crue, qu'ils mettent en œuvre, permettre de saisir des tendances, permettre de repérer ailleurs des processus similaires qui sont présents de manière plus diffuse. Et je crois que c'est le cas lorsqu'on étudie cette robotisation tendancielle des armes. Et je cite une phrase d'Adorno, une réflexion qui lui avait été suggérée par le spectacle des V1 et des V2, les fusées déjà sans pilote, à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le régime nazi crépusculaire envoyait sur Londres. Et la réflexion d'Adorno, c'est il en coûte, pour ainsi dire, toute l'énergie du sujet pour qu'il n'y ait plus de sujet. Il en coûte toute l'énergie du sujet pour qu'il n'y ait plus de sujet. Et je crois que c'est une réflexion très forte et très belle, parce que l'idée n'est pas qu'il faudrait se hâter face à ce type de processus de crier une nouvelle fois à la mort du sujet, mais au contraire, d'essayer de comprendre et de saisir quels sont les processus subjectifs de désubjectivisation. Et je pense qu'une des activités principales des subjectivités politiques dominantes aujourd'hui, on peut les comprendre comme des activités qui consistent à s'escamoter, à brouiller les pistes, à effacer les traces. Et je crois que la question qui est devenue obsédante aujourd'hui, où est le sujet du pouvoir en sur fond de crise généralisée et de postmodernité, je crois que la phrase d'Adorno donne une bonne piste pour retrouver la trace de ce sujet en fuite. Où est le sujet du pouvoir? Il est partout où ce sujet s'affaire, s'active avec des moyens immenses et des investissements énormes pour s'effacer, justement. Et on pourrait, alors là, en niveau très général, établir des parallèles entre les efforts, par exemple, de la finance pour brouiller les pistes, pour effacer les responsabilités, et ce qu'on trouve là tendanciellement en gestation dans la sphère des armes, parce qu'évidemment, des robots létaux, autonomes, une des questions majeures qui se posent, ce serait qu'il n'y aurait plus personne qui appuierait en apparence sur le bouton. On passe très schématiquement d'un mode de pouvoir qui procède par des ordres du commandement direct à un autre type de pouvoir, même si c'était déjà présent, mais si on schématise vraiment, un autre type de pouvoir dont la modalité principale est davantage le programme et la décision sur la décision, la spécification des paramètres d'un programme plutôt que des ordres directs. Si on n'arrive pas à construire non seulement une critique argumentative, mais aussi une critique en acte avec des mobilisations citoyennes, c'est malheureusement la perspective qui s'offre à nous. Marx parlait de la guerre développée antérieurement à la paix. C'est l'idée toute simple, hein, mais que les conflits armés sont des phases d'expérimentation, sont des laboratoires où les processus technologiques, les inventions peuvent s'accélérer, elles sont testées, et que ensuite elles peuvent revenir vers la sphère de la société civile après cette première élaboration militaire. Je crois que c'est un scénario probable. Enfin, ça commence par la guerre, comme toujours ensuite, très vite, c'est par l'étranger, par les frontières. Et on a déjà aujourd'hui des drones qui patrouillent à la frontière mexicaine aux États-Unis. Et l'étape suivante, ce sont les drones policiers. D'abord des drones d'observation et de surveillance. Très vite, parce que les projets sont là aussi, je les cite dans le livre, des drones policiers équipés d'armes non létales, du type flashball, taser. Bon, il y a un véritable danger. Et l'espoir possible, c'est que des opinions publiques occidentales qui pour l'instant ont failli à s'opposer à des guerres dronisées, à des campagnes d'abattage et d'assassinats ciblés, mais en réalité d'exécutions extrajudiciaires menées à l'autre bout du globe, qui ont échoué à faire ça, que peut-être le jour où elles comprendront, ces opinions publiques, que ces armes leur sont à leur tour destinées, alors elles réagiront. Toute la dernière partie du livre, elle pose finalement la question des effets tendanciels de cette arme, non plus rapportée à la conduite de la guerre, c'est-à-dire aux affaires externes de l'État, mais rapportée à la question politique du rapport entre le souverain et ses sujets. Bon, c'est un long développement, je ne vais pas le résumer ici, mais je repars d'une thèse très, très célèbre de Kant. La question de Kant, elle concerne la décision guerrière. Son idée, c'est de dire, lorsque c'est le souverain, tout seul, de sa propre initiative, qui décide de la guerre, alors il y a un danger, qui est un danger politique. Et ce danger, il tient au fait que le souverain ne meurt jamais à la guerre, ni lui, ni ses proches, qu'il n'en paye pas le prix, qu'il n'en subit pas les coûts. Et alors, dans ce schéma-là, un schéma d'un autocrate, d'un despote, écrit Kant, on est dans une situation où le souverain peut décider de la guerre comme on décide d'une partie de plaisir ou d'une partie de chasse. C'est-à-dire que la guerre chasse, ou ce que j'appelle la guerre cinégétique, c'est non seulement en rapport à l'ennemi, mais ça caractérise aussi un certain rapport au mode de décision guerrier, un mode de décision dans lequel on n'est pas engagé. Et donc, parce qu'on n'y est pas engagé, on peut finalement décider de l'emploi de la force militaire à la légère. Et Kant oppose à ce schéma-là un autre mode de décision, ce qu'il appelle le mode de décision républicain. Il n'emploie pas le terme de démocratique, parce que ça désigne chez lui autre chose, mais à peu de choses près, c'est ce qu'on entendrait aujourd'hui par le modèle de la démocratie libérale, la démocratie électorale. Et son idée est qu'alors, si les citoyens sont ceux qui décident de partir à la guerre, il est probable, c'est un scénario très optimiste, hein, il est probable qu'ils décident avec prudence, avec circonspection. Parce que, on peut traduire ça dans un autre vocabulaire, le vocabulaire de la théorie de la décision rationnelle, ou du calcul économique, ce que une partie de la science politique américaine a fait en redécouvrant le texte de Kant dans les années 90, parce que alors, les citoyens électeurs internalisent les coûts probables de leur décision, et la prédiction de ce modèle, qu'on appelle le modèle du pacifisme démocratique, c'est que le recours à la violence armée tendanciellement dépérira, sauf en cas d'enjeu décisif, vital, crucial pour un peuple. Ça, c'est le schéma classique kantien. Mais dans ce schéma-là, il y a une hypothèse imprévue. Et cette hypothèse imprévue, c'est ce qu'on appelle la préservation par substitution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si les citoyens électeurs peuvent confier la tâche de prendre les risques de la guerre à un tiers? Un scénario qui s'est déjà produit historiquement. Je cite les textes de Hobson, le grand pourfendeur britannique de l'impérialisme. Et son diagnostic, c'était que lorsque, dans un régime de type parlementaire, on confie la tâche des opérations militaires à une main-d'œuvre militaire indigène, alors, il se passe quelque chose de dangereux pour la nation qui a recours à cette chair à canon, qui est finalement un retournement du schéma kantien, alors que le schéma optimiste prévoyait le pacifisme démocratique. Dès qu'il y a externalisation des coûts, ce même schéma déraille, devient autre chose, et c'est le militarisme démocratique. Ce qui peut être fait avec des forces indigènes peut l'être aussi avec des forces dronisées, avec ce qu'on appelle des forces militaires à haute intensité en capital par opposition au travail militaire, peut l'être encore plus avec des forces robotisées. Et vous voyez, l'un des problèmes, on peut prendre la question sous des angles très différents, j'en donne simplement un ici, l'un des problèmes, c'est le biais qui est introduit dans les conditions de la décision guerrière, et le danger qui se pose, c'est celui de la tentation de recourir à une arme low cost, à une arme qui promet, c'est une fausse promesse, mais qui promet la préservation absolue des nationaux. Le danger, il concerne l'absence de bornes dans le recours à la violence armée. Et c'est un des dangers politiques principaux qui est lié à la généralisation de cette arme.